France Culture.
Perspective ce soir et lumière sur une rivalité croissante, de plus en plus structurante pour l'économie et pour les relations internationales. Je veux parler de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Comment est-elle perçue, comprise, contrée du côté chinois? Comment le retour de Donald Trump est-il perçu et analysé du point de vue de Pékin? Pour en discuter, pour en débattre, deux invités ce soir. Alice Seckmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en relations internationales, directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et spécialiste de la Chine. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé « Rouge vif » qui est paru à l'Observatoire, c'était en 2020, et qui a reçu le prix du livre de géopolitique et plus récemment de l'ouvrage intitulé « Dernier vol pour Pékin ». Une édition actualisée existe désormais chez Flammarion en édition poche. Face à vous, Stéphanie Balm, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse et professeure, directrice du Centre de Recherches Internationales, le CERI de Sciences Po. Vous êtes spécialiste de la diplomatie scientifique, de la Chine globale et des relations Chine-États-Unis-Union européenne. Vous avez vécu 13 ans en Chine entre 2018 et 2019. Vous étiez diplomate en Chine. Vous travailliez à la coopération scientifique franco-chinoise. Vous avez également fait de la recherche à Columbia. Merci à toutes les deux d'être présentes ce soir dans Questions du soir. Et un mot, Alice Seckmann, pour commencer, du point de vue de Pékin, du point de vue des autorités chinoises, comment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est-il perçu et analysé?
Alors, perçu comme, bien sûr, une source de menace et de limite. On connaît la menace des droits de douane, 60% pour l'instant. La menace, enfin, pour l'instant, Donald Trump, l'administration impose 10%. Mais surtout, malgré ces menaces et ces limites, et les sanctions, on connaît donc les sanctions commerciales, les sanctions technologiques, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus des réseaux sociaux chinois, de TikTok, mais aussi, et s'il faut bien le souligner, la Chine perçoit... La présidence Trump 2, si l'on peut dire, comme une source potentielle d'opportunité. Et ça, c'est très important à souligner parce que la Chine exploite déjà aujourd'hui le potentiel de tensions transatlantiques. On vient de le voir avec la conférence de sécurité de Munich qui s'est achevée hier. Réellement, la Chine joue sur le contraste États-Unis imprévisible, fauteur de troubles, et Chine qui serait prévisible, source de constance. Je cite Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, qui dit « Nous apportons la plus grande certitude à ce monde incertain. La Chine sera sans aucun doute un facteur de certitude dans le système multipolaire, etc. » Je ne vais pas citer la propagande en long en large, mais le positionnement est intéressant. Parce que tout d'abord, alors que les tensions transatlantiques sont vraiment à un niveau maximal, les Chinois se positionnent comme source de stabilité. Bien sûr, c'est un positionnement. Mais en même temps, la Chine va tout faire pour accélérer le rythme des initiatives diplomatiques au même moment où États-Unis et Europe essayent de s'accorder face à des divergences évidentes sur le traitement de la guerre en Ukraine. Et clairement, la Chine va investir au sein des Nations Unies, va devenir le premier contributeur du budget des Nations Unies, de l'OMS, souligne ses initiatives et va jouer à fond la carte européenne en disant nous avons des projets. Alors elle rappelle le projet des nouvelles routes de la soie qui serait compatible avec le projet européen dit Global Gateway d'infrastructure, etc. C'est-à-dire qu'au moment où des tensions transatlantiques sont très fortes, la Chine va jouer la carte du rapprochement avec l'Union européenne. Il faut bien comprendre que tout ce jeu, qui est de façade, mais quand même, qui montre un activisme certain, s'inscrit dans une stratégie chinoise plus globale de coalition. C'est-à-dire que pour la Chine, il ne s'agit pas de mettre l'Occident de côté, en tout cas c'est ce que Wang Yi dit lors de la conférence de Munich, mais il s'agit de marginaliser l'Occident au sein des instances multilatérales et sur les grands enjeux mondiaux. Et donc les tensions transatlantiques, c'est tout bénef, si je puis dire, pour la Chine, parce que c'est une forme de marginalisation, en tout cas d'érosion d'une alliance qui était forte jusqu'à présent. Et tout cela qui pourrait à terme bénéficier à la Chine dans des instances multilatérales. Au moment où les États-Unis se désengagent, la Chine essaie de combler le vide au maximum. Et c'est ce qu'elle a déjà fait lors de Trump 1, la première présidence. Et c'est ce qu'elle va faire réellement à marche forcée, ce qu'elle fait déjà à marche forcée dès aujourd'hui dans les prochains mois. tout en s'adressant vraiment à ce qu'on appelle les pays du Sud, c'est-à-dire essayer de renforcer des relations avec les pays non occidentaux pour marginaliser une coalition occidentale qui est déjà très affaiblie.
Vous avez déjà abordé beaucoup de sujets, évidemment on va tirer le fil de ce que vous dites dans cette émission, mais je reste un instant, Stéphanie Balme, avec vous, sur la perception du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Est-ce que, concomitamment à tout ce que vient de mettre en lumière Alice Eckman, il existe aussi dans le discours chinois, dans les autorités chinoises, une analyse politique de ce retour? Est-ce que, comme en Europe, c'est perçu comme un retour de l'extrême droite? Est-ce que ces termes-là même sont employés par les autorités chinoises?
Non. Alors d'abord, moi j'aime beaucoup votre question qui nous appelle à nous décentrer. C'est-à-dire de ne pas regarder les relations Chine, États-Unis, Chine du point de vue des Américains ou du point de vue seulement des Européens. Et de se poser la question de comment, à la fois, et quand on dit Chine, de qui on parle? Le Parti communiste chinois, le représentant Wang Yi sur les affaires étrangères ou la société chinoise? Et en fait, moi, j'ai fait ce travail déjà pendant la campagne de Trump. Et il se trouve qu'en Chine, beaucoup de sujets sont censurés, pour pas dire quasiment tout, sauf la politique étrangère. Et souvent, on peut s'exprimer sur les questions de politique étrangère. Et il y avait un débat en Chine qui émergeait, dont on trouve aussi des comptes rendus dans un magazine qui s'appelle Shiting, qui est beaucoup, beaucoup lu par les intellectuels chinois et par tous les China Watchers, et qui disait qu'en fait, probablement, une partie importante de l'opinion publique qui s'exprime dans les réseaux sociaux chinois était assez favorable à Trump. Et pour deux raisons, une assez malsaine, qui disait « laissez-le faire, il va se tromper, et en fait, il va échouer ». Et en faisant échouer les États-Unis, c'est tout bénéfice pour la Chine. Ou bien, en fait, il représente une forme d'ultra-libéralisme sans un État fort. C'est une lecture chinoise. Hein. Donc, vu de Chine, c'est ce qu'on comprend du libertarisme américain tech. Et c'est ce qu'il nous faudrait en Chine. Donc, en fait, et là, on serait vraiment dans une phase de grand succès en capacité de devenir le premier mondial. Aussi parce que la Chine fait face à de grandes difficultés. Donc, maintenant, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir... Alors, votre question, c'était, est-ce que la Chine s'y est préparée? D'une certaine manière, les relations Chine-États-Unis sont tellement chaotiques depuis le rapprochement de ces pays en janvier 1979, et certainement ces 25 dernières années, et certainement depuis le Trump numéro 1. C'est-à-dire que pour les Chinois, un peu plus ou un peu moins de Trump, c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, ce qu'ils peuvent, c'est jouer, surfer sur cette relation chaotique des relations internationales organisées par Trump, mais c'est pas tellement le couple États-Unis-Chine qui va mal. Donc, ils se sont préparés, oui, et par ailleurs, la Chine n'est pas exactement le même pays que pendant la première administration Trump. C'est-à-dire qu'ils sont...
C'est un pays en crise déjà.
C'est un pays qui est en crise sur le plan économique, mais qui est tout aussi dépendant des États-Unis qu'ils étaient sous la première administration. Par contre, qui sont plus forts sur le plan de la tech. Et par ailleurs, ils sont structurellement vulnérables en termes de matières premières pour construire leur croissance. Et donc, c'est comme ça qu'ils construisent aussi, en fonction du besoin des matières premières qu'ils ont, leurs alliances sur le plan géopolitique. Et donc, en fait, le discours qui est le leur sur la scène internationale, c'est de construire des alliances. Et Trump veut construire des alliances. Donc, en fait, ce que dit Alice Eckman est très juste, c'est-à-dire qu'il y a un monde immense d'opportunités pour les Chinois dans le monde de Trump, qui consiste à laisser Trump aller au combat. Et derrière, sur la question ukrainienne, sur la question en Amérique latine, en Amérique centrale, sur les questions au Moyen-Orient, de dire nous, on est des faiseurs de paix et on aide les États-Unis qui ont décidé d'avoir un discours différent qui n'est plus celui, disons, du double standard, du double standard, notamment sur la question des droits de l'homme, et qui consiste à dire maintenant, on travaille avec tout le monde pour autant que ce soit efficace.
Je reste un instant, Alice Eckman, encore une fois, sur la dimension politique de cette relation. Est-ce que le style de Donald Trump, le style politique, le style discursif, a tendance à choquer en Chine comme il choque en Europe? Est-ce que là aussi, ce style-là empêche peut-être un dialogue constructif de se nouer entre les deux pays?
Oui, enfin, la Chine, elle regarde, elle identifie ses intérêts. Il y a le style dans l'absolu, la perception individuelle, mais en quoi ce style peut être utile à la Chine? Et l'approche de Pékin, c'est de dire face à ce style, et encore une fois qui peut apparaître imprévisible, foutraque, mal préparé, sans stratégie, la Chine fait tout pour apparaître mesurée, calme, réfléchie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré de nombreux points de divergence entre Washington et Pékin, et Pékin doit probablement penser que Trump se trompe sur de nombreux points, y compris par exemple récemment sur Taïwan. Il y a une modification des communications officielles en ligne s'opposant à l'indépendance de Taïwan. Pékin réagit, etc. Mais ils le font de manière extrêmement mesurée. Plus largement, ils ne critiquent pas frontalement l'administration Trump, alors qu'ils pourraient le faire. Et ils le pensent profondément, puisqu'il y a l'antagonisme Chine-États-Unis est là, la rivalité est forte, il faut bien se le rappeler. Mais ils considèrent que ce n'est pas de leur intérêt de se mettre au ce niveau de confrontation pour justement apparaître en contraste comme une puissance responsable, une puissance mesurée face à une autre puissance qui ne le serait pas. Et alors, c'est intéressant de voir à quel point la Chine joue sur ce contraste, parce que finalement, l'objectif aujourd'hui de la diplomatie chinoise, c'est de changer, on va dire, le focus, l'attention. C'est-à-dire qu'à un moment où les Européens, de nombreux alliés, se concentrent sur les mésaventures, le comportement de Donald Trump et de son administration, la Chine, finalement, est moins au centre de l'attention. Elle peut continuer à avancer ses pions, à lancer l'initiative qui sont dans son intérêt. Et c'est vraiment ce contraste-là que la Chine va tirer, jouer au maximum, en jouant notamment face à l'Union européenne sur les 50 ans de l'anniversaire de la relation bilatérale, puisque cette année, c'est les 50 ans. Alors, bien sûr, c'est une opportunité parmi d'autres, et souvent, les anniversaires ne veulent pas dire grand-chose. Mais elle va jouer sur ce contraste-là, en disant, voilà, nous sommes plus calmes, plus posés, plus responsables. Mais ça ne va pas vraiment marcher, parce qu'en face, au niveau européen, il y a Kaya Kallas, qui a déjà rappelé aux Chinois qu'il fallait arrêter d'exporter des composants, des technologies à usage dual, qui peuvent servir à l'effort de guerre russe. Et puis, les Européens sont bien conscients que les relations Chine et Russie n'ont de cesse de se renforcer depuis l'invasion russe de l'Ukraine, y compris au niveau commercial, avec une augmentation croissante des échanges commerciaux. Et donc, on est dans une situation très particulière, mais au fond, après, c'est difficile de savoir, et je voudrais quand même souligner qu'il existe aujourd'hui une censure en Chine sur les questions de politique étrangère. Par exemple, les chercheurs chinois des centres de recherche affiliés au gouvernement ne peuvent pas critiquer le rapprochement Chine-Russie, en tout cas pas ouvertement. On va dire les plus libres et les plus critiques aujourd'hui ne sont plus affiliés à des institutions officielles. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais aujourd'hui, réellement, je pense qu'au fond de, c'est-à-dire que les analystes chinois et les cadres du parti prennent de haut l'administration Trump. Justement, parce que ce caractère, enfin cette apparence improvisée, ces décisions d'un côté comme de l'autre, montrent au final que de grands jeux, peut-être à court terme ça payera, parce que Donald Trump est transactionnel et qu'il arrivera à obtenir ce qu'il veut de certains partenaires commerciaux, mais à long terme, le vrai jeu pour la Chine, c'est la gouvernance mondiale, c'est-à-dire renverser le rapport de force dans les institutions multilatérales. On parlait de l'ONU, mais bien sûr, il y a l'investissement au sein des BRICS, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, etc., pour qu'au final, les Occidentaux soient marginalisés. Parce que les vraies rivalités sont celles-ci, c'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping, considère que les États-Unis sont le premier des ennemis, que la Russie est un partenaire majeur, que les Européens, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, année du 50e anniversaire de la relation bilatérale, sont des Occidentaux et donc, par définition, on ne peut jamais leur faire confiance, que ce soit sur la question des droits de l'homme ou sur d'autres questions, et que donc, à terme, il faut changer ce rapport de force. Et donc, encore une fois, toute tension transatlantique est vraiment bienvenue par la Chine et va être exacerbée dans les prochains mois.
Stéphanie Balme, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle il existe, parmi les autorités chinoises aujourd'hui, une forme de mépris à l'égard de l'administration de Donald Trump, mépris quant à son absence de vision de long terme et de stratégie globale?
Alors, pour répondre, il faudrait que je puisse vous dire qui j'ai interviewé, est-ce que j'ai obtenu ce genre de réponse, etc. Je veux revenir sur le fait que tout à l'heure, vous avez dit, il y a un style disruptif trumpien qui est absolument évident, et il est perçu comme disruptif en Chine aussi. Sur deux points, sur le style, et les Chinois savent très bien que aujourd'hui s'il y a un moment Nixon, comme on dit, s'il y a un rapprochement entre les États-Unis et la Chine via la Russie.
C'est Nixon, on le rappelle, hein, qui avait en quelque sorte officialisé les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis.
Exactement, qui avait permis en 72, en fait, d'abord un lien avec l'Union soviétique, puis après avec la Chine, ce qui avait permis en 79 une reconnaissance réciproque entre la Russie, entre la Chine et les États-Unis. Mais s'il y avait moment Nixon, ce serait un moment Nixon de très court terme, et le côté disruptif de la politique de Trump peut s'abattre sur la Chine à n'importe quel autre moment. Donc il y a aussi une grande maturité, je pense, du côté des autorités chinoises, parce qu'en fait, elles en ont l'expérience. Pour elles, les relations sino-américaines, c'est l'essentiel de ce qui occupe le schéma mental des affaires étrangères vues de Pékin. Il y a ce jeu de mots chinois qui dit que le G20, ça n'existe pas, parce que c'est le G2 plus 0. Les deux étant les États-Unis et la Chine. Donc ça, voilà, c'est
une très bonne blague chinoise.
Très bonne blague chinoise qui fait beaucoup rire à Pékin et qui a du mal à, voilà, qui plaît pas forcément aux Européens. Mais oui, le style est totalement disruptif, si vous voulez. Par ailleurs, le responsable des affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui a une très longue expérience sous Xi Jinping entre 2012 et 2023, qui était parti, qui a été remplacé par quelqu'un qui restait que quelques mois parce qu'en fait il avait des problèmes d'affaires extra-conjugales et donc il est parti, Wang Yi est de retour. Tout simplement pour dire que l'ultra-classicisme, la rigidité absolue du régime politique chinois est en contraste total, pour le coup, est aussi hyper disruptif par rapport au modèle trumpien. Après, les États-Unis et la Chine sont deux pays qui se connaissent très bien au niveau de leurs élites politiques et aussi des élites technologiques qui font la tech aujourd'hui. Donc il y a une connaissance réciproque dont on ne connaît pas le même niveau en Europe. Et c'est ça ce qui est un vrai problème. Tout à l'heure, on parlait de Madame Callas qui s'occupe maintenant de la politique étrangère européenne. Sa connaissance de la Chine est infiniment inférieure par rapport à tous les héros de la tech de la Silicon Valley vis-à-vis de la Chine. Donc il y a quand même ça qui est important. Donc ça signifie aussi que... Et par ailleurs, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les voix américaines qui s'expriment sur la politique étrangère à l'égard de la Chine sont très différentes. Vous avez un Marco Rubio, par exemple, et vous avez même un Elon Musk qui a un rapport à la Chine totalement différent, dont la maman fait du business en Chine, comme on sait, etc. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on parle...
Ce sont des autorités dissonantes ?
Ah, mais qui sont assez dissonantes, parce qu'elles ont des intérêts différents, mais aussi parce que, chez les libertariens, il y a un rapport... très complexe au modèle chinois. Pour certains, c'est vraiment un modèle, c'est-à-dire que les Chinois ont compris comment être capitalistes sans être démocrates, et ça leur va bien. Et pour certains, il faut apprendre de toute façon le modèle chinois pour le dominer. Mais quand on réfléchit, l'avenir c'est quoi ? C'est probablement pas une structure extraordinairement formelle des relations sino-américaines avec des cadres précis, etc. Mais c'est une relation, pour moi, je la verrais comme très bilatérale au sens de Trump-Xi Jinping. Et c'est dans ce cadre-là que les relations sino-américaines vont s'exprimer. Côté chinois, on revient à, Alice Eggman l'a dit, on est les grands responsables du monde. Regardez, c'est le sommet IA à Paris. On signe la charte pour une IA responsable et une IA qui se tourne vers les trustworthy, donc favorable au respect de la personne. On se retire pas de l'accord climatique. Donc sur le climat, sur l'IA, sur la paix, on déclare très clairement que non, il y aura pas de French Riviera à Gaza parce qu'en fait, il faut reconnaître les deux États, État palestinien. État israélien. Donc vous voyez, on est quand même dans deux perspectives où ce sont deux mondes qui se connaissent énormément, mais qui sont à des années-lumière quand même en termes de schéma idéologique.
Alice Eggman, en quelques mots, parce qu'après je voudrais qu'on aborde les relations commerciales entre les deux pays, mais en quelques mots, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dessine Stéphanie Balmela, c'est-à-dire des relations nourries essentiellement autour d'un bilatéralisme aujourd'hui ?
C'est intéressant, mais je pense pas que ce soit l'approche chinoise aujourd'hui, en fait, parce qu'ils ne cessent de souligner leur volonté de consolider ce qu'ils appellent un cercle d'amis, pongyotuan. Donc, c'est-à-dire, il y a cette relation bilatérale, mais surtout, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire fédérer contre les États-Unis. Et c'est ça vraiment l'objectif de la Chine en lançant ce qu'ils appellent l'initiative globale pour le développement, l'initiative globale pour la civilisation. Toutes ces initiatives globales, c'est-à-dire faire du chiffre. Faire du chiffre, c'est pas du chiffre économique, c'est-à-dire aux Nations Unies, dire voilà, nous sommes une coalition de 60 pays, 80 pays en soutien à cette initiative globale pour...
Donc marginaliser l'Europe et fédérer le grand nombre autour des États-Unis.
Marginaliser l'Occident, en fait, parce qu'au final, dans la vision stratégique, c'est assez intéressant parce qu'en fait... sous Mao, il y avait la théorie des trois mondes. Il y avait des grandes puissances, les pays non alignés ou colonisés, et puis des puissances intermédiaires. Et l'idée, c'était que pour pouvoir, on va dire, rivaliser avec les grandes puissances, il fallait justement jouer avec les puissances intermédiaires, y compris avec les zones grises. Mmh. Et aujourd'hui, la zone grise... ce sont davantage les pays européens, c'est-à-dire des pays occidentaux, donc qui ne sont pas considérés comme des amis naturels, mais dans un contexte de tensions transatlantiques renforcées, il faut renverser la tendance et faire du chiffre. Alors le chiffre, je vais revenir parce que c'est peut-être un peu confus de la manière dont je le présente, mais très clairement, c'est-à-dire qu'il faut renforcer les coalitions, former des groupes de pays, ça c'est vraiment l'initiative de la Chine par différents biais. La Chine ne fait que compter maintenant le nombre de pays qui ont signé des accords cadres pour la nouvelle route de la soie, qui sont membres du groupe d'amis d'initiative pour le développement global. Enfin bon, j'arrête le jargon diplomatique, mais ça a un sens aussi parce que quelquefois elle arrive par exemple à réunir aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, au sein duquel, enfin pour lesquels les États-Unis viennent se retirer, au Conseil des droits de l'homme, de réunir un nombre de pays supérieur pour soutenir sa position au Xinjiang. Par ailleurs, aux pays occidentaux qui critiquent la situation au Xinjiang. De même, sur la question hongkongaise, sur la question des droits humains. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'après une phase, on va dire, oui, de rivalité plus bilatérale, plus frontale, émergente à l'époque sous Hu Jintao et sous le premier mandat de Xi Jinping, depuis 2017-2018 et la deuxième phase, on est déjà aujourd'hui en troisième phase du mandat de Xi Jinping, deuxième phase du mandat de Xi Jinping, on est vraiment dans une stratégie de coalition qui voit très large. Et donc, il ne s'agit plus uniquement de montrer aux États-Unis qu'on est plus fort, il s'agit de trouver de plus en plus d'amis pour marginaliser les États-Unis et les États-Unis.
Je vous coupe sur ce point, pardonnez-moi. Est-ce qu'elle parvient véritablement à fédérer la Chine? Est-ce que quand on réunit 60 pays, 80 pays autour, j'allais dire, d'une haine parfois viscérale d'un pays, en l'occurrence les États-Unis ou en l'occurrence de l'Occident, est-ce que cette haine commune, ce non commun, fait quand même un groupe uni, unifié autour de la Chine?
Mais au début, on en doutait. Parce qu'on dit c'est de la com, mais personne ne va acheter ça. Et quand même, on voit, encore une fois, il y a des votes que la Chine a gagnés au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur le Xinjiang. Il y a des rapports de force en Afrique, par exemple, très anti-occidentaux, qui sont entretenus par la propagande chinoise et russe. C'est-à-dire que les propagandes s'additionnent, les initiatives, les stratégies en fait, anti-occidentales s'additionnent et convergent. Et la Chine considère vraiment, d'ailleurs, que cette stratégie de coalition ne peut se faire sans la Russie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle a investi autant dans sa relation et dans son rapprochement avec la Russie. Elle considère que ce positionnement, que Pékin, au fond, le considère comme un peu bourrin de la Russie, parce que la Russie est moins subtile dans sa, on va dire, sa critique de l'Occident que la Chine, même si, au fond, les positions sont vraiment convergentes, que ce positionnement est bienvenu parce qu'il faut faire aujourd'hui vraiment front commun. Et on voit aujourd'hui quand même que la Chine, face aux sanctions technologique occidentale, elle arrive à trouver des débouchés dans des pays tiers. Huawei fait face à des limites sur le marché européen, le réseau 5G télécommunication de Huawei, elle commence à trouver des débouchés dans des pays, encore une fois, dits du Sud, en développement émergent. Les voitures électriques chinoises ont vraiment gagné des parts de marché très importantes sur le marché russe, qui reste un marché limité, mais c'est pas le seul marché au sein duquel les parts de marché, on va dire, des voitures électriques chinoises sont importante. Et de manière générale, les logiques, le nombre compte dans les institutions multilatérales. Alors on peut dire, oui, si c'est un pays par-ci, un petit pays par-là, qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas une puissance économique telle que l'Union européenne ou les États-Unis, qui n'a pas de puissance diplomatique majeure, mais qui vote en faveur de la Chine ou des positions chinoises, ça joue réellement. Et donc, cette capacité de fédérer, à mon avis, ne doit pas être sous-estimée, parce que la Chine, aujourd'hui, a une compétence, une expertise diplomatique qui s'est vraiment affinés, consolidés. Alors, à la fois, ils peuvent être, on va dire, très contre-productifs, parfois, dans leur communication vis-à-vis de nous, mais aussi très productifs dans tout ce qui est le langage anticolonial, anti-occidental, et ça prend dans une partie du monde.
Stéphanie Ball, vous êtes d'accord avec ça? Dans le fond, la Chine est devenue, serait devenue aujourd'hui le fer de lance du multilatéralisme à l'ONU, à l'OMC, à l'OMS, et dans diverses arcanes multilatérales?
C'est une hypothèse qui est assez juste. Hein. Enfin, moi, je crois. Je crois que c'est un. En tout cas, c'est une carte qu'elle souhaite jouer. Il y a un concept utilisé par les Chinois que je trouve pertinent, qui est le bilatéralisme multilatéral. Donc, c'est l'idée de jouer sur les deux aux deux niveaux.
C'est-à-dire ça a l'air tout à fait antithétique présenté comme ça.
Alors, ça l'est plus ou moins. Enfin, en tout cas, dans l'idée que maintenant, il faut créer des alliances. On n'est plus du tout dans le monde des non-alignés. On n'est plus du tout dans le temps de la guerre froide, même si la Chine adore nous repositionner, nous, les Américains, les Européens, souvent en nous parlant de guerre froide. Mais en fait, c'est plus du tout le même schéma. Et l'idée, c'est de jouer sur les deux niveaux. C'est-à-dire le niveau bilatéral. Deux pays ensemble, dans un contexte régional ou dans un contexte multilatéral. Et d'une certaine manière, l'Europe donne à voir, crée cette expérience chez les Chinois. Parce qu'en fait, c'est aussi utile pour Pékin d'avoir le téléphone rouge de Bruxelles, mais aussi de passer par l'Allemagne pour négocier à Bruxelles, etc. Donc je dirais que la pratique, c'est celle du bilatéralisme multilatéral, tout en parlant de multilatéralisme dans tous les types d'alliances possibles, puisque de toute façon, on cherche à dépolitiser la relation au maximum. Ça, c'est quand même la stratégie chinoise. Donc, après la conférence de Munich, le discours de Wang Yi, le patron de la politique étrangère chinoise, redit « Vive les Nations Unies, vive le multilatéralisme, il faut régler tous les conflits du monde à travers des coalitions de paix pour la prospérité. »
Mais c'est un discours qui peut paraître étonnant aujourd'hui.
Et nous défendons le droit international. Mais en fait, là, pour le coup, je crois qu'il faut se redécentrer et réaliser que notre discussion, elle est forcément différente aujourd'hui parce que les États-Unis sont différents. Ils ont à leur tête une administration trumpienne qui ne parle plus de démocratie, de droits de l'homme, qui met la clé sous la porte de USAID, etc. C'est-à-dire qu'en fait, et je suis en train de terminer un papier qui dit ça, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train de se siniser. Les États-Unis sont en train de copier le modèle chinois. Après des décennies où la Chine, en fait, a structuré son évolution en copiant les Américains, c'est aujourd'hui les Américains. Et le lien, encore une fois, entre la Silicon Valley américaine et la Chine est incroyable en termes de connaissances mutuelles réciproques. Il y a même une forme d'admiration non seulement de ce qu'était le modèle chinois avant le Covid. Ils ont véritablement cru que la Chine allait disparaître pendant le Covid. Il y avait ce terme de Tchernobyl quand même, qui était le Tchernobyl chinois. Et de voir arriver la Chine non seulement résiliente, mais encore plus forte sur le plan tech après le Covid, leur fait dire qu'en fait, la puissance, elle est là. Alors après, sur toutes les questions,
Je voudrais juste faire réagir Alice Eggman juste sur ce que vous venez de dire là précisément, puis je vous redonnerai la parole Stéphanie Ball, mais quand même sur cette notion, sur cette idée selon laquelle Donald Trump cynise une partie de la politique américaine, c'est-à-dire qu'il la rend plus chinoise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il y a de la marche quand même dans la, en tout cas,
que la Chine est devenue un modèle pour certains dirigeants états-uniens.
Je suis pas spécialiste des États-Unis, mais j'ai vraiment pas l'impression, parce qu'il faut bien se rappeler qu'en fait la menace chinoise est considérée comme la première des menaces en fait à Washington, hein, que ce soit au sein des républicains et aussi au sein des démocrates. Et donc c'est pas phrases de début de mandat qui vont changer cette vision stratégique américaine, qui est vraiment de dire. En fait, il faut se concentrer sur la menace chinoise, sur l'Indo-Pacifique, sur les tensions en mer de Chine du Sud, autour de Taïwan. Et c'est aussi à cette lumière qu'il faut aussi analyser, les dernières déclarations américaines. Alors, encore une fois, je suis pas spécialiste des États-Unis, mais on pourrait supposer aussi qu'ils essayent de régler vite, la question de la guerre sur le territoire européen, voire même sur les Européens, sur les Ukrainiens, pour mieux retourner au dossier qu'ils considèrent le plus important, c'est-à-dire le dossier chinois. Et réellement, relatif consensus bipartisan sur la percée de l'aménagement chinoise est fort. Bien sûr, il y a des nuances d'un côté comme de l'autre, mais aujourd'hui, la Chine va plutôt doucement sur l'identification de l'aménagement chinoise dans ses communications. On se souvient du discours d'investiture où il parlait du Groenland, du Panama, avant même très peu de la Chine, finalement, on n'en a pas entendu parler que par sous-entendu. Mais il est fort à parier que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça aille en gradation et qu'il parle de plus en plus de la Chine avec des menaces plus fortes sur une augmentation des droits de douane, etc. Dans ce contexte-là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les États-Unis pensent qu'il faut régler peut-être même hâtivement donc la question de la guerre en Ukraine pour mieux se concentrer à terme sur l'Indo-Pacifique et la menace chinoise. Mais en réglant de cette façon, en tentant de régler de cette façon les tensions en Europe et la guerre actuelle, il froisse les Européens et crée des tensions transatlantiques. Et ces Européens et les Américains sont encore plus loin d'une convergence sur la question chinoise, qui serait dans l'intérêt des États-Unis s'ils veulent contrer ce qu'ils perçoivent comme une menace chinoise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, on est quand même réellement aujourd'hui dans une rivalité. Et il faut penser aussi, après je peux comprendre que certains, je comprends ce que Stéphanie dit, que certains éléments ou certains comportements de Donald Trump peuvent faire penser à un caractère un peu autoritaire, c'est peut-être ça que tu voulais dire, etc. Ça, je comprends ça. Mais il faut bien aussi voir qu'entre entre Washington et Pékin, il y a une tension idéologique très forte. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une compétition entre modèles. Les États-Unis restent une démocratie, quoi qu'on en dise actuellement. Et la Chine est un pays à partie unique qui considère que les valeurs universelles, la liberté, etc.
Pardon. Je vous profite de votre quinte de tout alors pour donner la parole à Stéphanie Balm. Vous ne sembliez pas d'accord, Stéphanie Balm, sur cette notion justement de rivalité entre des modèles stratégiques plus profonds entre la Chine et les États-Unis.
Alors effectivement, ce sont deux pays qui sont radicalement différents. On est d'accord. Une très jeune.
Je vous en prie, continuez, Stéphanie Balm.
Ça va aller. Hop.
Alix Eggman est contrainte de sortir du studio, mais elle nous fait signe de la main que cela devrait aller. Je vous en prie, Stéphanie Balm.
Décidément, Trump fait beaucoup de créer beaucoup de problèmes. Écoute, alors le fait que ce soit deux, entendons-nous bien, on a deux situations différentes, un pays, la Chine, avec une civilisation multimillénaire, qui a raté son développement constitutionnel au XXe siècle, qui est devenu cet état de rule by law, c'est-à-dire à l'opposé de l'état de droit techno-nationaliste et en même temps avec une forme d'idéologie centrée sur les solutions techniques contre le changement climatique. Donc on voit bien là, face à la très jeune nation que constituent les États-Unis, avec une démocratie constitutionnelle extrêmement longue, mais à sa tête un dirigeant qui est contre le changement climatique, qui est anti-science, c'est l'opposé de Xi Jinping. Donc il y a quand même de très grandes différences. Mais il se retrouve sur certains points. Il se retrouve sur le modèle autoritaire, sur la fin de la démocratie, sur l'idée selon laquelle, en fait, la démocratie n'est pas le régime le plus efficace pour obtenir de la puissance, notamment de la puissance politique dans un monde qui est dominé par l'ultra-réalisme. Et il se retrouve aussi, par exemple, sur l'atteinte aux libertés académiques. Alors, vous disiez tout à l'heure, l'extrême droite américaine, comment elle est comprise en Chine? Elle est mal comprise aussi parce que, franchement, les univers politiques sont très différents. L'extrême droite en Chine, ce sont les ultra-démocrates pro-occidentaux.
Vous pouvez nous expliquer là, l'extrême droite en Chine, si sont les ultra-démocrates pro-occidentaux?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans un échiquier politique qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est l'orthodoxe absolue, les rares orthodoxes ultra-marxistes.
Vous parlez du point de vue de la perception de Pékin, là?
Je ne parle pas du point de vue, je parle de l'échiquier politique chinois qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Dans l'extrême droite, vous avez perçu par Pékin, par le gouvernement chinois, ceux qui sont à droite, ce sont des démocrates. D'accord. Alors, vous avez un courant en Chine qui est représenté par ceux qui rêvent du retour de l'Empire, par exemple, et de la grande nation jaune, comme ils disent, qui sont extraordinairement xénophobes, que l'on mettrait à l'extrême droite chez nous, mais qui se situent dans une forme, qui sont presque au centre d'une forme de centralité de l'échiquier politique. Donc tout ça pour dire, mais c'est pas le thème de l'émission, que comprendre ce qu'est l'extrême droite aux États-Unis vu de Chine, c'est très compliqué. Par contre, ce fameux concept de wokisme, dont personne sait vraiment ce que ça veut dire, il est compris en Chine. Et c'est vrai que, et là pour le coup, il y a un soutien assez large, y compris des élites politiques chinoises, à l'idée que le wokisme, ce serait extraordinairement dangereux pour tous les États qui ont une forme de civilisation traditionnelle, que ce soit pour les États-Unis et pour la Chine. Donc il y a des conservatismes politiques très forts qui se retrouvent côté Amérique et côté Chine, c'est ça que je voulais dire.
C'est très clair, c'est passionnant d'aborder la question du wokisme du point de vue chinois. Alice Ekman, merci d'être revenue dans ce studio, on espère que vous allez bien mieux. Une question quand même, à quel point aujourd'hui, vous avez une minute chacun pour tenter d'y répondre, à quel point du point de vue économique, la Chine est-elle en crise aujourd'hui? Est-ce que cette crise est véritable, profonde et structurelle, Alice Ekman?
Oui, je m'excuse auprès des auditeurs, j'ai un rhume et voilà, un chat dans la gorge, mais c'est passé, j'espère que...
Et vous allez bien mieux, en tout cas, vous avez l'air d'aller bien mieux.
L'économie chinoise va mal, très clairement, hein, tous les indicateurs et même les retours d'entreprises aussi, qu'elles soient entreprises chinoises ou entreprises étrangères, l'indiquent, hein, consommation en berne, épargne des foyers en hausse parce qu'ils sont très inquiets pour l'avenir, problème de confiance dans le marché, crise de l'immobilier... avec des conséquences aussi sur l'épargne et les investissements des familles chinoises. Système de sécurité sociale qui reste incomplet, avec une population vieillissante et des pensions de retraite qui restent faibles. Et voilà, donc c'est un pays dont l'économie ralentit. On reste, selon les chiffres officiels, autour de 5%, probablement en deçà. Mais en même temps, c'est quand même une puissance qui a réussi à se consolider au cours des 15 dernières années et qui a des capacités militaires importantes, des capacités technologiques, Stéphanie l'a souligné, très importantes. Et donc, dans cette situation-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré ce ralentissement, la Chine a des capacités, mais elle a aussi une ambition extrêmement forte qui ne semble pas, sur le sein international, hein, diplomatique, par rapport à la rivalité qu'on évoquait avec les États-Unis, une ambition qui ne semble pas être revue à la baisse, compte tenu du contexte économique difficile. Je ne sais pas si vous voyez
clair.
La situation.
Stéphanie Balm, en quelques mots, est-ce que par ailleurs,
ces
prouesses technologiques qu'on voit surgir dans la presse, on pense notamment à DeepSeek, c'est l'arbre qui cache la forêt, derrière tout ça, il y a un pays qui est quand même profondément meurtri du point de vue économique?
Non, mais en fait, la Chine est confrontée au même problème que nous, mais à une échelle qui est celle de la taille de son pays. Donc, en fait, c'est pas incompatible d'être sur le point de devenir une grande puissance scientifique et de faire face à des problèmes économiques. Ça rentre, enfin, c'est complètement logique. En revanche, on peut mesurer. L'indice d'innovation globale indique que la Chine est au rang 11. Elle était au rang 15, 20, etc. il y a quelques années. Donc, la Chine connaît exactement ses faiblesses et ses forces, mais il y a une vision politique, il y a des ressources humaines, et il y a un budget. Donc, que la Chine ait ses faiblesses, je crois que tous les sinologues, s'ils seraient pas surpris si la Chine reste arrive à obtenir le statut de grande puissance qui est le sien à l'horizon, qu'elle souhaite, ou si la Chine s'écroule demain. En fait, il y a les deux possibilités tout à fait évidentes, parce qu'en fait, les fébrilités internes de la Chine, elles sont peu connues parce qu'elles sont censurées. Donc, au final, ce qui a été l'une des grandes forces de la Chine, ça a été son système politique et c'est probablement une de ses plus grandes faiblesses aujourd'hui.
Merci à tous les deux de cette discussion, Alice Ekman. Merci d'avoir tenu malgré votre état de santé. Vous êtes docteur en relations internationales, directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et spécialiste de la Chine. Le titre de votre dernier ouvrage paru, il est intitulé « Dernier vol pour Pékin » et l'édition a paru en poche dernièrement aux éditions Flammarion. Stéphanie Balm, vous êtes chercheur et professeur directrice du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, spécialiste de la diplomatie scientifique de la Chine globale et des relations Chine-États-Unis-Union européenne. Merci à toutes les deux d'être venues ce soir dans Questions du soir.